Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cet épisode vous est présenté avec la participation de Numéricable et de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2011 et c'est l'épisode numéro 61. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Une fois toutes les deux semaines, on vous résume toute l'actualité de l'actu tech. On résume l'actualité de l'actu, hein. On est tellement condensé que c'est double résumé de l'actu. Je suis Patrick Béja et je suis avec Ulrich aujourd'hui. Ulrich de Frandroid, FR Android. Je sais pas comment. Oui.
Non, Frandroid. Il y a pas, comme j'ai déjà dit, il y a pas de prononciation officielle, donc on entendait FR Android et Frandroid, mais d'accord. Au final, ça revient à la même chose.
Bon, dans tous les cas, l'un comme l'autre, c'est l'un des plus gros sites consacrés à Android en France. Je dis pas de bêtises, hein.
Non, c'est le plus gros site.
Donc le plus gros.
En France et le troisième au monde, quand même.
Pas, eh, ça prouve que quand même, les Français.
On a une belle communauté, oui.
Exactement. Alors, c'est vrai que souvent on me dit que le rendez-vous tech est un petit peu partial, on est plutôt Apple, plutôt pro Apple. Je suis pas tout à fait d'accord, mais au moins là, on essayera de corriger le tir, enfin on essaye de corriger le tir avec un spécialiste du camp adverse. Mais c'est pas forcément que du camp adverse, c'est aussi surtout parce qu'on a un sujet extrêmement googlien aujourd'hui. Avec Google I.O., qui est la conférence qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, la conférence où Google annonce toutes ses nouveautés pour l'année à venir. Et il y a plein de choses intéressantes dont on va discuter. On va aussi parler de l'EG8, de Microsoft qui rachète Skype, de plein d'autres choses. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'espère, s'il réussit à se libérer, que Loïc Lemaire se joindra à nous. S'il réussit pas à se libérer, eh ben tant pis. On sera juste tous les deux. J'espère que ça ne te dérange pas trop, ce tête-à-tête, Ulrich.
Non.
D'accord.
Aucun problème.
La chatroom est là aussi. Merci à vous tous d'être présents. Et surtout qu'on n'enregistre pas à l'heure habituelle. Il est beaucoup plus tôt. Là, il est 7h et il fait jour quand on enregistre. J'ai pas l'habitude. Bref, je te propose qu'on se lance immédiatement dans l'émission avec donc le premier sujet qui est Google I.O., Google Input Output. Enfin, in-out, je ne sais pas trop.
Mais oui, c'est ça, oui.
C'est I.O., qui est la conférence qui a lieu tous les ans pour Google, pour qu'ils annoncent, donc, comme je le disais, toutes leurs nouveautés, toutes leurs innovations, tous leurs nouveaux services. Et on est un tout petit peu en retard dans cette émission puisqu'elle a eu lieu il y a une dizaine de jours déjà. Donc le montage, c'est que on a eu le temps de digérer, de tester, de voir ce que ça donnait. Une petite note quand même par rapport à cette conférence. J'imagine que tu l'as regardé, Ulrich.
Oui, j'ai regardé en live.
Bien sûr. Tu vas me dire ce que tu penses de cette analyse que j'ai fait, moi. En dehors des annonces, la conférence en elle-même, moi, j'ai eu une impression assez particulière en voyant ces ingénieurs, parce que c'est vraiment des ingénieurs chez Google, faire ces présentations. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir d'être le témoin d'une sorte de grande fête d'ingénieurs qui étaient hyper contents d'être là et qui venaient présenter les petits jouets qu'ils avaient inventés et avec une sorte d'enthousiasme hyper communicatif qui était mignon et vraiment, enfin voilà, c'était un enthousiasme communicatif qui avait une certaine force pour des gens un petit peu plus techniques. et qui était très loin dans un style sans donner de d'échelle de valeur ou de jugement de valeur, mais qui était très loin du style d'Apple, qui où dans leur présentation ils vont vraiment se poser et raconter une histoire presque. Ils vont te donner une histoire à laquelle tu vas pouvoir suivre du début à la fin et qui va te porter d'une manière un petit peu différente. Donc les deux ont leurs avantages, mais moi cet aspect de Google m'a pas mal amusé et pas mal plu, je dois avouer.
Donc, je t'avouerai que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je pense que dans les deux il y a une histoire, sauf qu'elle est racontée différemment. Chez Apple, toutes les keynotes de Steve Jobs sont très préparées, etc. Je pense que chaque mot est pesé. Lorsqu'on est face à des ingénieurs, on a quand même des gens qui sont moins, c'est pas des communicants, c'est pas des marketeurs. C'est vrai que la plupart c'est vraiment des passions. Du coup, lorsqu'ils en parlent,
ils viennent sur la scène et ils s'amusent, quoi.
Oui, oui. Mais c'est chaque fois le cas, et souvent on s'attend à des annonces à la Apple en disant ils vont nous sortir une présentation PowerPoint et.
Ouais.
Mais en fait non, il y a rien de ça qui est préparé. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois ils arrivent avec leur petit gadget. Mais bon, c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, en tout cas ton analyse. Je pense que c'est comme ce podcast, c'est des discussions entre des ingénieurs et des ingénieurs.
Ouais, c'est sûr. Ouais, en fait.
Et donc
voilà.
C'est vrai que c'est moins passionnant peut-être pour les gens comme nous, mais en tout cas, il en ressort des choses très intéressantes.
Mais moi, je dirais que personnellement, j'ai été totalement passionné. Je l'ai regardé de bout en bout la keynote de Google. Moi, je dirais que c'est pour les consommateurs. Peut-être qu'un consommateur qui aime un petit peu la technologie, il sera plus prompt à regarder une keynote Apple qu'une keynote Google.
Peut-être, ouais. Mais nous, c'est vrai que j'en ai vu des très techniques et c'est vrai que c'est souvent très accessible, mais quand on regarde les sujets, c'est quand même souvent plus complexe que les sujets abordés par Steve Jobs.
C'est vrai. Oui, non, mais c'est ça. Oui. Oui, je crois qu'on dit la même chose, en fait.
Oui, on dit la même chose.
Ouais. Et ben d'ailleurs, puisque tu disais, il n'y a pas d'énormes annonces, il y a quand même eu quelques annonces intéressantes à la Google I.O. et certaines plutôt importantes. La plus grosse d'entre elles étant bien sûr, à mon sens, Google Music, qui a enfin été annoncé, donc ce service dont on entend parler depuis des mois et des mois, qui est finalement un service assez similaire à ce que propose Amazon et dont on avait parlé il y a quelques temps. Qui est donc un service qui vous permet de transférer sur le web, dans le cloud, votre musique que vous avez déjà achetée, dont vous avez des MP3 sur votre ordinateur, et donc vous les transférez dans le cloud. Et de la même manière que pour Amazon, les négociations n'ont pas été faites avec les grandes maisons de disques, et donc il y a une sorte de conflit aujourd'hui qui s'ouvre entre Google et les maisons de disques, parce que eux, ils voudraient que Google paye une licence pour ce type de service. Alors, on va pas rentrer dans le débat, on l'avait déjà fait sur Amazon, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faudrait pas, mais ce qui est sûr, c'est que le débat entre les maisons de disques et Google, lui, a été bien ouvert, et Xubi, très beau nom, dans la chatroom, nous dit « procès dans le futur ». Procès, je sais pas, c'est possible, mais en tout cas, renégociation, comme avec Amazon, à mon avis, ça va arriver. Alors donc, on met notre musique dans le cloud, et puis ensuite, on y a accès par une page web ou par Android, ça vient remplacer le lecteur MP3 par défaut d'Android, on va pouvoir accéder à notre musique comme ça. Toi, tu as pu le tester, n'est-ce pas, Ulrich ?
Alors, j'ai testé, donc ce qu'il faut savoir, qu'aujourd'hui, le service est ouvert que aux Américains. On est obligé de passer par un proxy, etc. Ou être sur place.
Et il est en bêta en plus.
Oui, moi je l'ai testé sur une. C'est vrai que comme beaucoup de services à la Google, ça sort un petit peu sous le sigle Google Labs. Donc c'est des services qui sont dits bêta, mais qui sont largement utilisables. Donc moi je l'ai testé sur une Motorola Xoom. En gros, pour expliquer comment ça fonctionne, on télécharge une petite application, j'ai plus le nom, je crois que c'est Music Manager, quelque chose comme ça, sur son ordinateur. Elle va récupérer les répertoires qu'on veut qu'elle récupère, c'est-à-dire.
Loïc, c'est extraordinaire, Twitter. On est en train de faire l'émission, je passe sur Twitter et je vois, quelqu'un peut dire à Todd Patrick que je suis dispo maintenant, donc t'appelles. Voilà. Comment vas-tu? Loïc, Allô? Ah, bon, bah, on l'entend pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Loïc. Bon, bah, écoute, continue, Ulrich. On va, on va essayer de continuer à découvrir ce qui se passe avec Loïc.
Avec Google Music.
Oui, donc, non, je voulais dire avec Loïc et Google Music en même temps. On va multitasker.
Donc, en gros, ça reste très simple. On choisit les répertoires sur lesquels on veut synchroniser, lesquels on veut synchroniser. C'est-à-dire qu'on peut même choisir iTunes, etc. Donc, il va récupérer au fur et à mesure les MP3 qu'on a synchronisés et les stocker sur le cloud.
Ouais.
Et ensuite, on l'a.
Alors, premier souci, ça prend énormément de temps de le.
Ça, c'est un des gros points négatifs.
Ouais, c'est sûr. Voilà, Loïc nous a rejoint. Normalement, c'est bon maintenant.
Je suis vraiment désolé.
Écoute, c'est pas grave. Je sais que tu es extrêmement occupé, extrêmement pris en ce moment. Donc, il n'y a pas de souci. J'imagine que tu vas devoir même refiler pour ton, pour le G8, non? Pour les préparations?
Écoute, ça va, oui, dans, mais ça va. Écoute, j'ai déjà fait changer l'heure 3 fois et j'ai fait 45 minutes en retard, mais je te garantis que je ne pouvais pas faire autrement.
Je m'en doute. Et bah tu sais, il y a avec n'importe qui à n'importe quel autre moment, j'aurais dit que c'est abusé. Mais là, franchement, on est vraiment tombé sur le moment où il t'a quand même un emploi du temps pas simple à gérer. Donc il y a pas.
Non, vraiment désolé.
Donc on était avec Ulrich en train de discuter de Google I/O et de l'annonce de Google Music.
Ouais.
Vas-y. Pour faire simple, j'étais en train de décrire ma première utilisation de Google Music. En gros, ça permet de stocker, je crois, des milliers de chansons. Aujourd'hui, je crois que c'est 40 000.
20 000 aujourd'hui, 20 000, en bêta.
Donc 20 000, c'est quasiment de l'illimité pour la plupart des personnes. Et donc, cette musique est accessible via une page internet. Donc, via son navigateur, ça ressemble un peu à Deezer. Donc, on a toute la musique, c'est du quasi instantané. Je crois que c'est à peu près 2 secondes pour lancer une musique. Et ensuite, on a sur tous les dispositifs Android, en tout cas pour le moment sur les tablettes et sur les smartphones, une application qui permet de récupérer toute cette musique stockée. Donc voilà, c'est très simple dans les faits, mais c'est assez énorme.
Le problème, c'est qu'il faut quand même uploader la musique qu'on a achetée, parce que encore chez Amazon, qu'on disait offre un service un petit peu similaire. Oui, la musique qu'on a déjà, il faut l'uploader sur notre locker, mais si on achète un nouveau morceau, il est transféré automatiquement. Or, chez Google, on ne peut pas acheter de nouveaux morceaux. Donc, c'est un petit peu...
C'est le point négatif. Moi, je pense que, une fois qu'on a synchronisé sa musique, on est quand même... C'est la plus grosse étape.
C'est sûr.
La plus difficile.
Tu l'as testé, toi, Loïc, Google Music?
Non, ils ont annoncé qu'on devait, en tant que participant... heureux de Google I/O puisque on a eu notamment cette fantastique tablette Samsung qu'on devait aussi recevoir une invitation pour ça, mais je l'ai pas vu encore.
D'accord. Bon, donc Ulrich satisfait. Moi, je suis un tout petit peu sceptique, mais bon, c'est un bon service. Le truc, c'est qu'il faudra voir combien il va coûter, par quoi ça va être suivi ensuite. Mais ce qui est certain, c'est que Google est en train de pousser très très fort sur les médias, parce qu'ils ont aussi mis en place un système de streaming de vidéos pour les films et les séries télé en location depuis YouTube, qui est accessible sur les machines Android, que ce soit des téléphones ou des tablettes. Donc ils sont en train de... En fait, c'est un petit peu la composition d'un ensemble, d'un bouquet de services pour tous ces acteurs du marché, que ce soit Amazon, Google ou Apple, qui est en négociation avec les majors de la musique pour proposer le même type de service de streaming pour la musique. Finalement, on est en train de récupérer des services qui seront au final vaguement similaires. C'est ce qui est en train d'arriver ou c'est juste un... Enfin, si je vous pose la question, mais la réponse est évidente, c'est bien le cas.
Je pense que Google maintenant a énormément d'audience et ils sont en train d'essayer d'absorber toute la chaîne de valeur.
Mais c'est un truc qui leur manquait, quoi, l'aspect média sur Android, et qu'on ne m'accuse pas de fanboyisme. Je vous pose la question, c'était un truc qui manquait quand même par rapport à d'autres. Pour pas dire Apple.
Ah, pour moi, il y a 2 choses importantes. Il y a le contexte et le contenu. Et je pense qu'ils ont tellement travaillé sur le contexte que maintenant ils travaillent sur le contenu.
Oui. Mais... D'accord. Autre annonce importante de Google I/O, qui là va concerner peut-être encore plus Loïc que notre ami Ulrich, c'est Ice Cream Sandwich, qui est la version qui va unifier les deux plateformes Android pour mobile, enfin pour téléphone mobile et pour tablette, donc qui va amener en fait la dernière version du système Android pour les mobiles aussi, et sans doute corriger un certain nombre de bugs qui existent aujourd'hui, et surtout la permettre de la distribuer à tout le monde, et avec une série d'initiatives de Google et de ses partenaires, va également permettre de diminuer la fragmentation qui existe aujourd'hui dans la distribution d'Android, puisqu'on sait bien qu'il y a énormément de systèmes, enfin de versions différentes du système qui sont installées sur le marché. Et ça, ça devrait arriver vers la fin de l'année, à peu près. Là, je me tourne vers Loïc. J'ai entendu un petit peu tout et n'importe quoi sur cette histoire de fragmentation, et je suis assez sceptique quand j'entends dire que la fragmentation finalement n'est pas un énorme problème sur Android. J'ai entendu des développeurs dire oui, mais non, finalement, c'est pas tellement de boulot en plus. Mais quand on a tellement de plateformes et tellement de versions de l'OS à gérer, ça doit forcément être moins simple que sur une plateforme unifiée, qu'elle soit HP, Windows Mobile ou iOS.
Oui, oui, c'est beaucoup moins simple à gérer, en effet. C'est un vrai casse-tête. Et aujourd'hui, on a Sismic, on a une version donc Android qui est dispo sur le market, et qui est testé. Il faut voir qu'on teste aussi en plus. À chaque fois qu'on fait une release, on teste avec différents systèmes, versions de l'OS. Et donc ça, c'est déjà compliqué. Et maintenant, on a la tablette qui est, on a fait circuler quelques screenshots, mais qu'on va lancer d'ici, je pense, 2-3 semaines, et sur Onecom donc, et qui est une autre en fait version du code complètement différente, qui est Onecom, mais qui est ne tournera pas sur les téléphones qui seront pas sur les dernières versions. Et donc oui, c'est un vrai casse-tête. Par contre, justement, j'en discutais avec les développeurs cette semaine, qui me disaient que ils vont être capables de faire dans le même build, comme on dit, dans la même version, les deux systèmes d'exploitation. Donc en fait, on va télécharger un seul fichier, les deux seront dedans. C'est vraiment temporaire, c'est une bonne initiative que Google force un peu la main aux opérateurs. Mais c'est encore compliqué. Ajoute à ça une autre complexité, qui est le fait que sur Android, il n'y a pas qu'un seul App Store, il n'y a pas qu'un seul market, mais chaque opérateur en plus a son petit ou moins petit d'ailleurs sa boutique interne. Donc nous, je crois qu'on a inscrit Sismic dans 50 marchés. Si tu prends Orange, il faut s'inscrire. Tu prends Vodafone, on est dans 12 de plus. Les opérateurs américains, on est sur Docomo au Japon. C'est un vrai casse-tête en fait pour les développeurs. D'ailleurs, c'est une idée de start-up pour ceux qui nous écoutent. C'est d'aider les gens à gérer ça, parce qu'une fois qu'on a inscrit l'application dans tous ces stores, ensuite il faut aller récupérer les stats. Enfin, c'est un vrai casse-tête. C'est horrible.
Casse-tête, ok. Est-ce que ça devient décourageant pour les développeurs de se dire, enfin, est-ce qu'il y a vraiment un attrait de iOS et de sa simplicité? Parce qu'on sait que pour les consommateurs, bon, c'est un peu plus simple, ça marche plus facilement, pas forcément mieux, même s'il y a des limitations par ailleurs. Est-ce que en tant que développeur, pas forcément toi, mais on peut se dire, malgré, je vais dealer avec les problèmes que peut me poser Apple et l'aspect arbitraire de l'App Store, parce que justement, je soumets mon application une fois et voilà, elle est partout et c'est simple. Oui, est-ce que ça va jusque là?
Ça, c'est vrai, sauf que nous, en tout cas aux États-Unis, on a 80% de nos utilisateurs aux États-Unis, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais ouais, Android est devenu 20 fois plus gros que l'iPhone pour nous.
Et ah donc, oui.
Et oui, Sismic est venu en retard sur l'iPhone et ce sera sur l'iPod, donc dans l'iPad, pardon. Pod, c'est autre chose. Pad, dans quelques semaines. Donc, on n'a pas été particulièrement rapide et je le regarde, c'est comme ça. Mais néanmoins, on a une croissance sur Android qui est absolument incroyable. C'est devenu le numéro un aux États-Unis en termes de vente. Et je vois pas pourquoi ça suivrait pas dans les autres pays. Donc, faire l'impasse sur Android, ça paraît être un suicide.
C'est une énorme erreur, quoi.
C'est un suicide pour un développeur aujourd'hui. Et j'aime beaucoup Apple, hein. J'ai un iPad, j'ai un iPhone, on soutient la plateforme, on a On va sortir, comme je disais, l'iPad. Néanmoins, je vois de plus en plus mes amis qui créent des services et des applications qui créent d'abord la version Android et après éventuellement l'iPhone. C'est-à-dire que ça se retourne depuis ce qu'on voyait depuis quelques années.
Oui. Ouais, c'est sûr que les chiffres d'Android sont en progression constante et assez impressionnante. Et c'est vrai que en France, je ne sais pas si tu le constates quand tu reviens à Paris, Loïc, mais j'ai l'impression qu'en France, et j'ai entendu des chiffres qui tendraient à le confirmer, la part de marché d'Apple est disproportionnée par rapport à ce qu'elle est dans les autres pays, États-Unis inclus, mais pas seulement. Et c'est vrai que quand on va dans le métro ou dans la rue, on a tendance à voir plein de gens avec un iPhone, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays.
Je peux pas parler particulièrement pour les autres pays, mais c'est vrai que aux États-Unis, il y a un engouement pour Android qui est absolument incroyable. C'est juste incroyable. Et sincèrement, le hardware commence à être exceptionnel. La tablette Samsung qu'on a reçue à Google I.O., que je me suis empressé de donner avec une grande tristesse et beaucoup de joie en même temps à mes développeurs,
ouais.
Parce que c'est eux qui en ont vraiment besoin. Parce que l'émulateur est complètement catastrophique. C'est-à-dire ouais. De tester les applis avant de les lancer sur un émulateur, c'est horrible sur un Honeycomb. Et donc, ils ont vraiment besoin de cette tablette. Mais c'est vraiment top. Hein. Elle est plus fine qu'un iPad. Elle est légèrement plus légère qu'un iPad. Et les performances sont extraordinaires. Par contre, le logiciel est très en retard par rapport à iOS. Il faut quand même le reconnaître.
Bon, écoute Ulrich, votre heure viendra.
Non, mais c'est programmé. Je pense que ça a bien été résumé. Mais en France, on est peut-être un des derniers bastions pour l'iPhone.
Oui.
Parce qu'il y a une distribution qui était un peu différente avec plusieurs opérateurs.
C'est vrai, oui, ça a joué.
Mais de toute façon, on y viendra. Ça sera dans l'année qu'Android passera au-dessus de iOS.
Bah écoute, peut-être que tu vas pouvoir m'expliquer alors un autre mystère de la galaxie Google, qui est Chrome OS, puisqu'il a été annoncé donc à Google I.O. toujours, et c'est notre dernière grande nouvelle de Google I.O., que le fameux Chrome OS sera disponible en ordinateur portable, dès le 15 juin, en tout cas aux États-Unis. Et souvenez-vous-en, le Chrome OS, c'est ce système d'exploitation de Google qui est entièrement basé sur le navigateur Chrome. Et en fait, quand vous allumez votre ordinateur, au lieu d'avoir Windows ou macOS ou ce que c'est, vous aurez Chrome, le navigateur, qui va se lancer. Et en gros, ça représentera l'essentiel, une immense majorité de votre système d'exploitation. Donc, vous vous loguez avec votre identifiant Google et vous retrouvez tous les services Google, que ce soit Gmail, Google Docs, Reader, etc., mais aussi tous les services que vous pouvez avoir sur le web. Mais par contre, disons que essentiellement, il faudra. Alors, il sera possible de travailler un petit peu offline quand on n'est pas connecté à Internet, mais c'est pas prévu pour ça. L'essentiel de la machine, c'est que vous êtes connecté en permanence. Et pour un ordinateur portable, ça me paraît trop tôt.
Mais c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Au début, j'avais cet avis-là. Mais lorsqu'on réfléchit un peu au contexte aujourd'hui, c'est un peu comme dire est-ce que c'est intéressant ou pas de louer une voiture à New York. Moi, personnellement, j'y ai été et je pense que ça sert à rien. On s'en sort très bien en taxi ou en métro. Ou à pied, bien sûr. C'est pour ça que je pense que en fait le contexte est devenu roi et que les vieux concepts des années 80, à savoir des ordinateurs de plus en plus puissants, qui savent tout faire, enfin c'est terminé. Je pense que peut-être temps de faire évoluer l'ordinateur. Le téléphone a énormément changé ces dernières années, alors que l'ordinateur malheureusement pas changé. C'est peut-être il y a eu début de réflexion avec les tablettes, mais je pense que en tout cas les Chromebooks, parce qu'on appelle ça des Chromebooks.
Oui, pardon, j'ai pas la.
Non, mais c'est marrant, parce que moi j'ai acheté Chromebook.fr pendant la conférence. Mais bon.
Bien joué. Ouais, mais non, mais c'est très bien ça dans la philosophie de la technologie et de se dire qu'un jour effectivement les ordinateurs fonctionneront de cette manière. Aujourd'hui, moi si j'ai un portable que je ne peux pas utiliser quand je suis pas connecté à Internet. C'est comme si j'avais un ordinateur que je pouvais pas utiliser quand je suis pas connecté à Internet, un ordinateur de bureau en 95 par exemple.
Mais on a quand même accès à son contenu local. Mais moi je pense que ça pourrait convenir peut-être pas à tout le monde, mais à beaucoup de personnes, je pense par, en particulier aux étudiants, qui utilisent principalement le navigateur aujourd'hui. Je pense également à certains métiers comme l'après-vente, etc. Ils seraient connectés à un back-office. Et en fait, je pense que même en entreprise, Chrome OS a beaucoup, beaucoup d'avenir. Lorsque je vois les cycles de développement de Google de 6 semaines, au final, on se rend compte que le système d'exploitation, il est relégué au stade de service, simplement. Et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Je pense en particulier aux services IT pour les gestions des mises à jour, la chaîne de nouveaux logiciels, les déploiements. Et donc là, toutes les 6 semaines, on serait capable de déployer des mises à jour.
Oui, mais là, c'est un rêve. C'est un beau rêve, mais d'une part, pour moi, on n'est pas prêt aujourd'hui à utiliser un ordinateur de cette manière au niveau de la connexion. Mais en plus de ça, aucune entreprise aujourd'hui ne va confier son infrastructure, enfin la gestion de ses documents, par exemple, à un service qui est dans le cloud.
Il y en a beaucoup qui sont passés avec Google Apps, mais
c'est pas que Google Apps, hein, si je peux me permettre.
Oui.
Il y a une société qui s'appelle Salesforce avec laquelle on travaille. Qui réalise 2 milliards de chiffre d'affaires sur le cloud intégralement.
Ah bah oui, Salesforce, c'est des gros, oui.
Et y a rien, au final, c'est la même chose.
Rien stocké sur ordinateur. Et c'est des données totalement critiques pour l'entreprise, puisqu'il s'agit de la gestion des forces de vente, et des ventes, et donc des opportunités des clients d'une entreprise. Il n'y a pas plus sensible que ça.
Oui, bien sûr. Mais enfin, une société comme Sismic, avec une personne à la tête qui est très au courant de ce qui se passe dans l'univers des technologies et qui est très ouverte à ces choses-là, bien, je peux l'imaginer, d'ailleurs.
Non, preuve. Je te parle de Schneider, je te parle de gens comme ça, de sociétés.
Moi, j'allais dire, je vois pas Renault confier sa force de vente à un service en ligne, mais oui, Schneider, c'est un petit peu de la même. Oui, non, c'est vrai. Ah bah peut-être que c'est moi qui suis un vieux con et que
Toyota au Japon est sur Salesforce, aux États-Unis Dell est sur Salesforce, et pourtant ce sont des données totalement critiques.
Ouais. Et donc pour toi Loïc, le Chrome OS peut effectivement avoir peut fonctionner dès aujourd'hui, parce que attention, je suis pas en train de dire que Chrome OS n'a aucune chance. Ce que je suis en train de dire, c'est que je doute un petit peu sur l'utilisation aujourd'hui.
Mais moi, j'en ai
visiblement
un,
vous êtes en train de me dire le contraire.
J'ai eu un CR48 que j'ai toujours, donc le proto en fait de démo qu'ils ont envoyé. Évidemment, le hardware est pas très bon, mais c'est vraiment pas fait pour ça.
Oui, c'était un truc de test, oui.
Voilà, et celui qu'en revanche, ils ont montré à Google I.O. et que les participants vont aussi recevoir, ça c'était juste pour vous faire aller un peu dans quelques semaines. et les petits Samsung, c'est vraiment très séduisant. Et je pense, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que ça va répondre à une certaine cible, notamment les étudiants, qui est un marché qui cible pas mal. Bien que je pense qu'il y en a pas mal qui jouent quand même. Donc ça,
c'est vrai.
Les jeux en ligne, ça va pas être top. Même s'il y a...
Ça commence en même temps, hein, les...
Ouais,
les
mais
jeux.
Tu pourras pas faire du 3D, tu peux pas faire, tu vois, de l'optimisation graphique comme tu as sur... Angry Birds, c'est 2D.
Oui, bien sûr.
Tu peux tourner un World of Warcraft sur un Chrome OS, donc ça va manquer quand même. Mais par exemple, toutes les professions, tous les commerçants, tu sais, souvent il y a un PC à côté de la caisse, si j'ose dire, qui sert pas à grand chose. Il sert à faire de la gestion de l'entreprise, il sert à peut-être taper quelques données. Tous les call centers, imagine les opérateurs de call center, ils ont un programme derrière. Tu peux tout mettre en ligne, ils ont pas besoin de d'OS.
Oui, c'est vrai. Oui.
C'est ce qui est vraiment très intéressant de la part de Google, c'est la tentative de révolutionner le business model lui-même en faisant des PC qui sont vendus par mois. Plutôt que d'acheter.
Oui, en location plutôt qu'en achat, oui.
Exactement. Et donc, 20-30 euros par mois, je sais plus, ça est dispo en France d'ailleurs fin juin en même temps que tout le monde, si j'ai bien compris. Et je pense que c'est intéressant. Maintenant, moi, personnellement, je pense que les tablettes vont avoir un succès absolument fulgurant. Ça a déjà commencé. Et qu'en réalité, je suis plutôt là, tu vois, pour revenir du côté plus Apple, dans la vision qu'a exprimé Steve Jobs l'an dernier à une conférence qui s'appelle D, qui est les PCs are trucks, les PC sont des camions, vont devenir des camions. PC, il comprend les Mac hein, là-dedans. Hein,
c'est-à-dire bien sûr, bien sûr.
Tout ce qui a un clavier. Et je pense que c'est ça la bonne vision. Quand on voit la vitesse à laquelle les tablettes évoluent, je vois pas pourquoi on achèterait même un Chrome OS netbook. Tu vois, c'est ça.
Mais peut-être pour des utilisations spécifiques dont vous parlez, quand il faut taper quelque chose, bah effectivement là, un clavier est irremplaçable. Et avec un client très léger, moi je trouve qu'il est quand même un petit peu cher le laptop, enfin les laptops dont qu'ils ont présenté. Je les ai trouvés un peu chers. Moi je me suis dit, si c'est juste un écran, un clavier et tout le reste est sur, enfin et tout est sur Internet, c'est une machine qui va coûter $200 quoi. Et finalement on était plus proche de prix comme $300, $400, $500. Ça m'a un petit peu surpris. Mais dans l'ensemble, bon, j'avoue que vous m'avez quand même un petit peu convaincu. J'étais plutôt négatif à l'origine pour l'utilisation aujourd'hui. Et bon,
Et ce qui est assez intéressant à regarder, c'est que les gens sont habitués à avoir des ordinateurs surpuissants qui savent à peu près tout faire. Et Larry Page, quand il parle de Chrome OS, il parle de ce qu'il peut pas faire.
Ouais.
Et je vois très bien des gens, mais ça évolue. Je vois des cinéastes qui utilisent iPhone pour réaliser des films.
Oui, non, mais alors là encore, enfin bon,
c'est. Non, mais la qualité est bonne, c'est un bon début.
Enfin, oui, d'accord. Mais enfin, encore une fois, on est dans des fantasmes de technophiles là. Aujourd'hui, on peut réaliser un petit film fait sur iPhone et tu vas faire du buzz parce que tu l'as fait sur iPhone. Bon, concrètement, tu vas pas vraiment réaliser un film sur iPhone, ou alors il faudra rajouter tellement de matos que c'est plus un iPhone.
Je pense que Chrome OS, c'est vraiment une mauvaise affaire pour Microsoft, et oui. Bon, je pense que le 21e siècle ça on va en entendre parler.
Oui, c'est sûr. Et puis, je suis d'autant plus facile à convaincre que, comme je le dis souvent, moi, je vis sur le web, que ce soit dans Gmail, dans Google Reader, sur Twitter ou Facebook, ce genre de choses. Et Google Docs, d'ailleurs, j'utilise ça énormément. Donc, je comprends tout à fait cette tendance. Bon, on avait aussi des sujets à traiter sur Android et Arduino et Android at Home, qui sont des initiatives assez intéressantes. Je pense qu'on va faire saute-mouton sur ces sujets-là et renvoyer les auditeurs vers Upload, le tout dernier, où on a parlé un petit peu plus longuement de ces sujets. Et on va évoquer plutôt le fameux EG8. Qui est une initiative assez intéressante du gouvernement français, en fait, qui a la présidence du G8 aujourd'hui. Et peut-être que je vais laisser Loïc nous la présenter, parce que tu es un petit peu plus immergé là-dedans. Tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit et puis pourquoi c'est important ?
Oui, enfin, je n'organise pas.
Hein, non, bien sûr, mais voilà. Tu y vas déjà, donc c'est...
Je peux te parler beaucoup plus de le web, les 7 et 8 et 9 décembre, mais un peu moins de... C'était la page publicitaire. Sur, non, j'y vais.
On y arrivera tout à l'heure. J'ai des questions à te poser.
Ah d'accord. J'y vais parce que je trouve que c'est intéressant que mon pays, puisque je suis maintenant aux États-Unis, ait une initiative autour de l'internet. Voilà. Ça, je pense que c'est toujours bien. Et je pense que le plateau qui a été invité. Et confirmé d'intervenants est absolument incroyable. J'ai donné un coup de main d'ailleurs aux différentes équipes qui ont travaillé là-dessus. J'y ai mon panel aussi. Et donc je pense que c'est voilà, je pense que c'est une bonne chose.
Mais alors, excuse-moi,
Le principe. Le principe, c'est vas-y, pardon.
Non, je voulais simplement qu'on réexplique le principe parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit.
Pardon, ouais. je pars du principe que tout le monde lit les. En effet, donc en fait ça va durer 2 jours. C'est une série de tables rondes qui regroupe des acteurs autour de l'internet, que ce soit des acteurs économiques ou plus du monde culturel, et donc en fait qui est censé être très très large, qui est à l'initiative du président. Qui est organisé par Publicis et Maurice Lévy, et dont l'objet est de faire des recommandations au G8 en fin de semaine autour de ce qu'il faut faire autour d'Internet sur les mêmes thèmes. Voilà, il va y avoir à peu près 1000 participants, et sur les intervenants, c'est très impressionnant. Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, sera là lui-même. Mais aussi le créateur de Groupon, et des gens comme ça.
Donc, il y aura Eric Schmidt, il y aura... Le Rupert Murdoch avec sa troupe de président de ces différents groupes médias. Et puis effectivement, ce qui est important, il est important de mettre de souligner la chose. C'est un événement qui est organisé juste avant le G8, qui est donc a priori l'une des plus grandes instances internationales de politique internationale au monde, et qui est censée effectivement avoir c'est une réunion de préparation autour de la tech pour le G8. Hein. C'est bien la finalité, je dis pas de bêtises, c'est bien d'avoir une influence sur les décisions qui vont se prendre au G8, peut-être pas celle-là, mais enfin.
C'est ça.
Ouais.
C'est après, voilà, on va voir, mais moi, les consignes que j'ai sur mon panel, c'est de discuter de suggestions qui vont être passés au G8 par la suite. Et puis ensuite, un tout petit nombre de participants du IG8 vont participer au G8, qui est notamment Mark Zuckerberg de Facebook. Mmh. Mais là, c'est vraiment sur les doigts d'une main. C'est pas parce que j'ai compris, ce qui est normal, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Mais alors, moi, un truc qui m'a marqué, en fait, dans cette initiative, c'est que... Enfin, à vrai dire, il y a plusieurs choses. Certains bons côtés et quand même un ou deux côtés un petit peu plus négatifs. D'une part, c'est, à ma connaissance, la première et la seule fois où on a une initiative aussi forte qui essaye de rapprocher le monde des gens qui sont, qui rédigent qui prennent les décisions et qui écrivent les lois, donc les gouvernements, en Europe et bon, plus particulièrement en France, et le monde de l'économie numérique, qui est évidemment, tout le monde le sait, devenue aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que aux États-Unis, par exemple, ils ont le fameux CTO, qui est le Chief Technology Officer, le tsar tech, qui est à la droite du président, qui peut lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire dans le monde de la technologie. En France, jusqu'à maintenant en tout cas, on avait l'impression que le monde de la technologie était complètement déconnecté du gouvernement. On en a eu l'exemple au hasard, hein, je vais citer le nom de Adopi, qui est en tout cas, je pense, au-delà du fait que ça soit justifié ou pas, légalement, difficilement applicable, et je prends des pincettes, le consensus est que c'est difficilement applicable dans le monde de la technologie, et le gouvernement, malgré tout, veut absolument faire passer des choses qui paraissent... compliqué à mettre en place. On a l'histoire du logiciel de sécurisation, enfin bref, des histoires qui s'accumulent. Et là, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que après avoir essayé certaines choses dans cette direction, peut-être que Sarkozy s'est dit bon ben finalement on n'a pas réussi à enclencher quelque chose. Peut-être qu'on a fait quelques erreurs à droite ou à gauche. Est-ce qu'il serait pas bon qu'on se mette au moins à parler aux gens qui connaissent quelque chose? Est-ce que il y a quelque chose qui vient de là, dans le sentiment, ou c'est moi qui me construis mon film dans mon coin?
Écoute, je sais pas te dire, Patrick, parce que ça n'a pas encore commencé. Mmh. Comme je te disais, moi, je me limiterai à dire que je trouve que c'est une bonne initiative. Ensuite, ayant moi-même participé, comme tu le sais, à donner un coup de main à la campagne il y a quelques années, disons que j'ai appris à faire attention à ce qui est envisagé, ce qui est livré après par la suite.
Ouais,
et
c'est
donc,
sûr.
Donc, sur ta question, je prendrai pas particulièrement de risque sur le résultat final, mais je trouve que c'est une bonne initiative, que le panel est très impressionnant, que les gens qui sont là sont de très très bonne qualité. Voilà, ensuite sur le concret qui en sortira derrière, il faut quand même regarder en face qu'on est à un an d'une campagne présidentielle et le garder à l'esprit.
Ah mais évidemment, alors il y a justement un des éléments que j'ai essayé de mettre en avant, je l'ai peut-être mal exprimé, c'est que le EG8 a été un petit peu critiqué parce que certaines personnes estimaient que finalement, c'était une réunion entre beaucoup de gens qui vont se voir, discuter, manger des petits fours et boire des cocktails, et que finalement, ça donnera rien. Et l'un des éléments qui moi me paraît important, c'est que justement, tous ces acteurs importants de notre économie et de notre gouvernement ne se parlent pas, et que ça, c'est finalement, même si c'est à la limite, j'ai presque l'impression que c'est un immense event de networking et que c'est pour mettre les gens ensemble dans la même pièce pour qu'ils discutent et que enfin les idées passent. Alors, ça va peut-être pas donner quelque chose immédiatement, et sans doute que ça ne va pas donner quelque chose immédiatement, mais au moins le fait que les gens discutent, ça sera en soi, à mon sens, une bonne chose. Alors, encore une fois, peut-être que je me fais des films, mais c'est comme
non,
ça que
non,
j'analyse
non,
le...
Non, non, je partage tout à fait ce point de vue, je pense que...
D'accord.
Au moins d'avoir des gens dans une même salle, parce qu'on a tous tendance à être dans notre monde, les politiques avec les politiques et les startups avec les startups et ceux qui sont plus du côté non-profit culturel entre eux. Enfin voilà. Et donc ça, je suis sûr que ça ne peut qu'aider.
Alors un autre élément de la discussion autour de l'EG8, c'était quelque chose de plus critique, et à vrai dire c'est une critique que je partage, qui est le fait qu'il semble manquer dans les intervenants, ou en tout cas dans les participants et les invités, la société civile a pas l'air d'être vraiment représentée. Et ça, c'est une lacune qui... Enfin, on peut imaginer que si on a uniquement des gens comme Facebook, Google et d'autres géants de l'Internet, et je vais peut-être... Bon, tu réponds pas, hein, si tu veux, parce que tu es impliqué dans la chose, hein, Loïc, mais c'est une chose qu'il faut dire quand on en parle de l'EG8. Il y a une préoccupation qui est que la société civile et les consommateurs sont un petit peu laissés de côté. Et moi, ce que je dirais, c'est que effectivement, c'est une préoccupation, mais c'est déjà suffisamment compliqué d'amener tous ces gens-là ensemble dans la même pièce. L'étape 2, espérons qu'elle sera l'intervention de la société civile. Ulrich, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette EG8?
Alors, j'avoue que j'ai l'impression d'y être vraiment très étranger. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être ce que tu viens de dire, justement. J'ai vraiment l'impression que c'est, justement, comme le G8, quelque chose d'assez loin de moi. Mais bon.
Est-ce que... Alors, oui, bon, le Loïc, à ce propos de la représentation de la société civile, je te mets pas sur le sur non, la, le hot seat.
C'est, mais... c'est un peu, tu sais, moi, ça fait 4 ans que j'ai la tête dans le guidon de deux startups, en fait. L'une qui est SMIC, l'autre qui est le web, et j'organise pas.
Non, bien sûr, je te demande. Non, mais.
Je peux pas répondre à ça. J'y vais comme invité qui a donné un coup de main à rejoindre quelques intervenants, parce que j'en connais certains, bien sûr, et qui organisent un panel. Voilà, c'est tout. Maintenant, sur. Tu sais, je pense que dès qu'il y a une initiative un peu politique, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Parce que tout d'un coup, le logiciel commercial est trop représenté, le libre pas assez représenté. Puis ensuite, enfin, tu vois, c'est bon. Ouais. Moi, je pense qu'avant de faire le procès de quoi que ce soit, ma position, c'est d'y participer, de voir. Je suis ravi d'y être invité.
Ouais.
Et ensuite, on verra. Mais je comprends totalement ces critiques, par contre.
Ouais. D'accord. Justement, c'est une critique qui a été, qui est peut-être un petit peu reflétée dans la formation du Conseil national du numérique, qui a été mis en place il y a quelques semaines, 2 semaines, je crois, qui va avoir un petit peu ce rôle dont on parlait auprès du gouvernement, mais uniquement français, qui va être une sorte d'après ce que j'ai compris, de moyen de prendre le pouls du monde technophile en France, et qui va permettre donc au président et au gouvernement, d'une manière générale, de savoir ce qui s'y passe et ce qu'il faut faire. Et la même critique a été émise, la société civile n'est pas vraiment représentée. Ceci dit, il y a une nouvelle également qui m'a fait un petit peu sourire, on parlait d'Adopi tout à l'heure. D'une part, les serveurs de TMG, qui est Trident Media Guard, la société qui s'occupe de fournir les informations à Adopi, donc de surveiller les réseaux de peer-to-peer et de fournir les informations à Adopi, a été piratée. Enfin, c'est un serveur bêta dont ils ne se servent pas vraiment pour les mêmes choses, dont ils se sont défendus qu'il ait dû être protégé. Mais enfin, c'était une magouille un petit peu étrange. Donc, ces serveurs ont été piratés. Du coup, Adopi a suspendu mise à jour, enfin la surveillance des réseaux, et du même coup, enfin c'était pas à la suite de ça, mais dans le même temps, Adobe va être refilé au Conseil national du numérique qui va devoir s'en occuper. On a un petit peu l'impression que quelque part, quelqu'un s'est rendu compte que l'Adobe, en tout cas, fonctionnait pas comme elle était censée fonctionner, et moi j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en train de la repasser, de la coller sous le tapis. Et que d'ici un ou deux ans, on risque d'avoir un remaniement un petit peu en profondeur de l'Adobe, voire qu'elle va plus forcément exister tout court. D'une manière générale, Loïc, vous voyez comment ces histoires de... je sais qu'on parle généralement aux États-Unis de Three Strikes Law et de la régulation du net ou de la... le Great Firewall of Europe dont on a entendu parler un petit peu récemment. Toutes ces histoires... Vous, dans la Silicon Valley et aux États-Unis, c'est quelque chose qui vous préoccupe, qui vous inquiète, ou c'est ce que font les Européens dans leur coin et,
Écoute, je vais te donner une anecdote. J'ai un de mes amis qui fait partie de ce conseil, qui m'a envoyé un mail il y a quelques semaines quand ça a été constitué, en me disant « Alors, qu'est-ce que tu penses du CNN ?» Et évidemment, je pensais qu'il parlait de la chaîne de télé, moi, parce que je n'en avais jamais entendu parler.
D'accord.
Et tu vois, la déconnexion entre, j'ai envie de dire vous, parce que je peux plus dire on, puisque je suis dans la Silicon Valley, mais ce dont vous parlez, vous, ici en France, donc je suis quand même obligé de le faire, qui s'est paraît très important à tout le monde. Tout le monde s'en fout là-bas. mais on sait même pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? C'est,
Voilà, la Three Strikes Law a fait un peu de bruit quand même.
Si très très franco-français. Ouais, donc Adobe, CNN, c'est une chaîne de télé là-bas. et c'est tout. Donc j'ai pas de voilà. Enfin, on est très concentré sur ce qu'on fait. Après, il y a peut-être du mal à ça aussi, mais ces préoccupations-là sont pas. Enfin, ils ont jamais entendu parler en fait. Hein.
Oui.
On n'en parle pas beaucoup. Tu sais, c'est loin la France vue de la Silicon Valley.
Oui, mais bon, CNN spécifiquement et la Adobe spécifiquement, peut-être pas, mais enfin l'influence, enfin les problèmes de propriété intellectuelle et de protection de la propriété intellectuelle et de lobbying des ayants droit est quand même une question internationale qui a pour origine même les États-Unis, puisque la plupart d'entre eux sont des sociétés américaines.
Donc, absolument. C'est une préoccupation de certains, mais pas,
pas de toi.
Je suis hyper content que tu m'aies invité ce soir, Patrick.
Écoute, parlons plutôt d'un sujet qui, je suis sûr, t'aura provoqué pas mal de réactions. C'est Microsoft qui a racheté Skype pour 8,5 milliards de dollars.
C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup plus de choses à dire. Mais je ne doute pas que tu trouveras des invités très intéressants sur les sujets précédents par la suite. Je trouve que c'est un move très intéressant de la part de Microsoft, parce que si tu regardes le succès d'Apple, il est bâti sur le fait d'avoir le matériel d'un côté, donc de construire ou plutôt de sous-traiter, mais en tout cas d'être l'éditeur, le constructeur du matériel sous la marque Apple et l'OS en même temps. Et finalement, je pense que Microsoft réalise que il doit avoir peut-être un téléphone beaucoup plus unifié. Donc le je sais pas si tu as vu cette rumeur de rachat éventuel de Nokia, qui n'est qu'une rumeur.
Oui, la division mobile.
Voilà. Mais tout ça fait quand même dans un sens assez certain, c'est-à-dire que le rachat de Skype pourrait faire en sorte que Microsoft soit beaucoup plus indépendant des réseaux mobiles. Et donc je pense que ce move là est pas du tout lié à Windows et toutes leurs activités, mais exclusivement au projet autour de Windows Phone 7. Et je vois très très bien Skype par défaut, comme Google Voice est de plus en plus présent par Google, et c'est un enjeu très important. Donc je vois bien Microsoft d'une certaine manière se passer un peu des opérateurs, si tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Et il manque plus que le hardware de l'autre côté avec Nokia. Ça me paraît très intéressant et c'est très agressif. Ça ne me surprend pas vraiment, parce que Microsoft joue son avenir quand même là-dessus.
Sur Skype, Google était sur le coup aussi, et Facebook d'ailleurs. Et beaucoup de gens ont dit que 8,5 milliards, c'était quand même une somme beaucoup plus élevée que ce que valait Skype sur le marché, et que le prix payé par Microsoft, c'était aussi pour éviter que Google ne les récupère. C'est au niveau du prix. Enfin, moi, pour moi, ce genre de tarif, ça, c'est totalement abstrait.
Mais moi, je veux intervenir sur ce sujet parce que je trouve assez intéressant. Je sais qu'en 2001, il y avait une action en justice qui avait un peu contraint Microsoft à cause de sa position dominante à moins acquérir de sociétés et un peu se calmer. Et là, ce qui s'est passé récemment, je crois, c'est que IBM, par exemple, la valorisation, la capitalisation boursière d'IBM est repassée devant celle de Microsoft.
Oui, c'était il y a deux jours. Oui.
Mmh. Il y a deux jours. Et je pense que les alliances comme Microsoft et Skype, il va en avoir plein d'autres. Parce que, justement, les choses ont changé, quoi.
Ah bah, c'est sûr que d'une certaine manière, Microsoft se rend compte que l'avenir est dans la mobilité et que Skype peut être une brique essentielle pour construire cet avenir. De la même manière que HP a racheté Palm, tout le monde est en train de s'armer pour être compétitif dans les années qui vont venir pour la question de mobilité. Mais malgré cette évidence, il me semble quand même que est-ce que Microsoft n'aurait pas pu concevoir un système de voix sur IP qui lui serait propre et qu'ils auraient intégré à tous leurs services et à tous leurs logiciels? Et justement, est-ce que Skype n'a pas été payé ce prix-là, comme je le disais, pour éviter que Google ne s'en empare à côté, quoi?
Bah, bien sûr, je pense que, pas moi, de mon avis, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et je pense que, par exemple, le rachat de TweetDeck par Twitter, etc., les rumeurs qu'on voit passer, c'est un peu de la stratégie défensive, enfin, de mon avis. Hein. Je sais pas ce que... Après, je pense que les marques se protègent et veulent acquérir un peu des positions rapidement.
Ouais. Bon. Loïc, pour toi, le marché du mobile vaudrait, parce que bon, s'ils rachètent Nokia aussi, c'est combien, 35-40 milliards en plus, ça vaudrait un investissement aussi énorme, parce que Microsoft, ils ont un trésor de guerre important, mais ça leur vide quand même un petit peu les poches s'ils font tout ça. Ça vaut le coup, c'est aussi important que ça, le mobile?
Je pense que tu es en train de parler de l'avenir de la boîte, là.
Bah oui, justement, est-ce que l'avenir de la boîte peut se jouer sur le mobile à ce point-là?
Oui, je pense vraiment. Je pense que c'est. Je pense que les tablettes et les smartphones vont devenir plus importants que les PC portables ou pas qu'on utilise. Et donc, si on considère ça, on peut pas rater quand on est Microsoft ce passage. Ouais. Et pour l'instant, les téléphones, ils se vendent pas beaucoup quand même, Windows Phone 7 encore. Donc, je compte énormément sur Nokia. Et c'est, à mon avis, c'est tout à fait crédible. Cette rumeur autour de Nokia est tout à fait crédible. Mmh. Je pense que ça serait une très bonne chose pour Microsoft et qu'en effet, ils peuvent se l'offrir.
C'est quand même invraisemblable de voir qu'avec une intégration verticale comme ça, Microsoft deviendrait, en fait, suivrait complètement le modèle d'Apple. Et Google, avec son ouverture d'Android, deviendrait une sorte de Microsoft. Enfin, c'est intéressant de voir la manière dont le marché évolue. Entre parenthèses, les licences 4G seront sans doute bientôt en vente en France. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va commencer à rattraper le retard qu'on a sur d'autres pays parce que le temps entre le moment où elles vont être en vente, le moment où elles vont être achetées, le moment où le réseau va commencer à se construire, c'est pas pour tout de suite non plus. Et dernière news que j'aimerais évoquer, c'est cette histoire de Facebook qui a été pris en flagrant délit de dénigrement de Google, qui est une histoire un petit peu abracadabrante, où il y a une semaine environ, Facebook, visiblement, enfin, une firme de relations presse, aurait commencé à contacter des journalistes aux États-Unis pour leur vendre une histoire selon laquelle Google ferait des choses pas tout à fait cachères avec la vie privée, les données privées des utilisateurs. En gros, ce qu'ils étaient censés faire de très très mal, c'est que ils récupéraient des informations sur les réseaux sociaux existants comme Twitter, Facebook, Flickr et tout ça, et qu'ils construisaient eux-mêmes leurs propres informations de réseaux sociaux à partir de ces informations qui sont publiques. Et ce fait-là était présenté comme quelque chose de négatif, et un des journalistes qui a été contacté par cette société de relations presse n'a pas accepté de faire le papier. Il a demandé qui était derrière ce pitch. Et on a fini par découvrir, il voulait pas vraiment tellement que ça se sache, mais on a fini par découvrir que c'était Facebook. Et ça a fait un gros scandale parce que c'est un petit peu Facebook qui pointe du doigt Google sans vouloir le dire et qui pointe du doigt Google pour une histoire de vie privée alors que Facebook, bon, niveau vie privée, on n'est pas forcément, c'est pas les premiers auxquels on fait confiance.
C'est vrai, Patrick, je vais rebondir un peu là-dessus parce qu'il faut que j'y aille malheureusement, je dois aller chercher mon badge pour les G8 avant.
D'accord.
Il est 20h30. Mais c'est vrai, ils l'ont reconnu, hein. Ça a été reconnu par Facebook. Parce que je pense que c'est malheureusement un procédé assez classique dans les entreprises. Ce qui est pas du tout acceptable, c'est qu'il l'ait fait sous couvert.
Oui.
C'est-à-dire que contacter des blogueurs, te contacter pour te dire tiens, tu devrais écrire là-dessus, c'est scandaleux. À la limite, pourquoi pas, c'est classique. Après, à la personne d'accepter ou pas, mais. Ce qui aurait dû être le cas, c'est que surtout vu que Facebook protège, promeut autant le fait d'être sous son propre nom et pas anonyme, le fait que eux-mêmes soient anonymes n'était pas particulièrement élégant.
C'est sûr.
Mais après, malheureusement, c'est assez classique. Mais je pense que ça n'a pas été la meilleure semaine pour Facebook, non.
C'est sûr. Mais le pire, c'est que s'ils avaient fait un article sur leur blog en disant bon, nous on fait les choses comme ci et comme ça, et Google est en train de faire ça, peut-être qu'il faudrait qu'on surveille ça. Ça serait complètement, ça aurait pu passer. On aurait peut-être ri un peu parce que Facebook dit un truc sur la vie privée, mais. Ouais, c'était pas hyper hyper habile.
Sur ce, je vous laisse. Je suis vraiment navré pour ce soir.
D'accord. Bah écoute,
si tu m'invites à nouveau, je serai là de manière beaucoup moins décousue comme la dernière.
D'accord. Bah écoute, on fera ça et tu pourras nous reparler du web qui sera donc. Vas-y, dis-nous. C'est le.
Merci. 7, 8 et 9 décembre cette année. On est en sur 3 jours au lieu de 2, donc c'est quand même la nouveauté. Et puis parce qu'on a beaucoup beaucoup de gens qui nous l'ont demandé. Et ensuite, on est dans la même salle que l'an dernier, ce qui fait que, or le web croît de 50% par an depuis 3 ou 4 ans. Et
d'accord.
Donc, je pense qu'on va être complet cette année, très à l'avance, à bon entendeur.
En espérant qu'il neige pas cette fois-ci.
En espérant qu'il neige pas, ça on contrôle pas malheureusement, mais les retours de l'an dernier ont été unanimement positifs quand même par la neige, mais ça c'est... Voilà.
D'accord. Bah écoute, tu reviendras nous en parler très vite. Merci beaucoup d'être venu quand même. Je sais que
t'es
pressé.
Le temps. Merci à vous.
Ça marche.
Excusez-moi de cette apparition rapide. Salut.
Il n'y a pas de problème. Merci Loïc. Ciao. Bon, bah c'était quand même gentil à lui d'être passé. On va continuer donc tous les deux, Ulrich et moi, en tête à tête.
Aucun souci.
Avant de se lancer dans nos news et rumeurs, parce qu'on a fini sur les sujets principaux, je vais quand même parler de notre sponsor, Numericable. C'est pas le web aujourd'hui, c'est Numericable, qui, comme vous le savez, a annoncé il y a quelques mois son offre Triple Play plus mobile. Alors ça veut dire quoi Triple Play plus mobile ? Ça veut dire que vous avez l'offre la moins chère du marché pour avoir téléphone, internet et télévision à 29,90€ par mois, et ça vous donne toutes les chaînes de la TNT et la TNT HD, internet jusqu'à 30 mégas et les appels illimités vers les fixes en France. Et c'est là que c'est nouveau, on vous le dit depuis quelque temps, les appels illimités vers les mobiles en France, aux USA et au Canada. Alors cette offre ITNT est, comme on vous le disait, je mets tout ça en gras, la moins chère du marché pour ce qu'elle propose, mais si vous avez déjà une offre NC Box Power ou Premium, sachez que vous pouvez aussi bénéficier des appels illimités en question, donc vers les mobiles France, USA, Canada, pour 3€ de plus, qui passent les offres respectivement à 42,90€ et 52,90€ par mois. Donc si vous avez déjà souscrit à une offre de ce type là, vous pouvez appeler Numericable au 39,90€ et ils vous feront passer sur la nouvelle offre. Et si ça n'est pas le cas et que vous voulez avoir plus de renseignements sur cette offre ITNT et les autres, vous pouvez aller sur le portail nowatch.net, vous cliquez sur la bannière Numericable et vous arrivez à une page qui vous présente tout ça de manière claire et facile à lire. Et en plus, comme vous passez par notre site, ça leur dit que vous êtes venu de notre part et ça nous aide aussi beaucoup. Merci à eux et merci à vous de nous soutenir de cette manière. Et on enchaîne avec les news et rumeurs. Il y en a quelques-unes dont je voudrais parler tout de même, même si on a été long sur Google I.O. et le G8. Le EG8, plutôt. Et on va parler un petit peu d'Apple directement. On l'a évoqué dans les sujets précédents, mais quand même, hein, un rendez-vous tech où on ne parle pas du tout d'Apple, c'est pas un rendez-vous tech. Je voudrais donc vous parler d'un petit truc qui a fait pas mal de bruit quand même au cours de la semaine dernière. C'était pour les 10 ans d'Apple. Enfin, pardon, excusez-moi, les 10 ans d'Apple, n'importe quoi. Pour les 10 ans de l'Apple Store, des magasins Apple en dur, il y a eu une nouveauté qui est arrivée, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu reconfiguré leurs magasins, qui étaient déjà des magasins assez appréciés dans le monde du commerce, qui étaient vraiment bien conçus. Ils les ont reconfigurés pour intégrer, pour mettre vraiment l'iPad au cœur de leur dispositif de vente. Et là, je parle à un marketeur, donc il saura me dire si c'est efficace ou pas, et si c'est une bonne idée ou pas, mais les affiches en fait qui vous donnent les détails de des produits que vous êtes en train de regarder ont été remplacées par des iPads qui vont vous faire en fait des démos un petit peu interactives du produit et qui vont vous permettre d'appeler un employé pour qu'il vous explique quelque chose, pour qu'il vous vende une machine, etc. C'est un coup de pétard mouillé cette histoire ou c'est vraiment quelque chose d'important
Moi je trouve que ça fait quand même beaucoup de bruit pour ce que c'est. Mais bon, je pense que c'est toujours intéressant de présenter ses produits. Mm. Mais bon, non mais c'est du merchandising. Je pense que c'est pas vraiment innovant pour Apple, mais ça serait innovant si on avait ça dans une boutique de luxe à Paris. Ça pourrait être un peu plus innovant pour ma part que Apple qui utilise ça. Mais bon, je me demande pourquoi ça y était pas déjà, en gros.
Mais à la limite, pourquoi ça y était pas déjà? D'une part, je dirais, on pourrait se demander pourquoi personne d'autre n'a fait la chose. Et d'autre part, c'est quand même une idée simple qui est la caractéristique des bonnes idées, c'est qu'elles paraissent simples une fois qu'on les a eues. Tu vois?
C'est vrai.
Donc, il faudra attendre d'aller voir ce que ça donne, effectivement, mais c'est un petit peu, comme le dit Toxendo sur la chatroom, c'est l'ordre logique des choses, ça, on allait dans cette direction. C'est à tester pour voir ce que ça donne vraiment, mais c'est une idée intéressante, et puis ça offre une expérience utilisateur qui est supérieure à celle qu'on peut avoir ailleurs, et que, a priori, d'autres pourront peut-être suivre à l'avenir. À noter que quand le premier Apple Store a été ouvert il y a 10 ans, c'était quand même, tout le monde estimait que c'était une initiative suicidaire par Apple et que ça ne marcherait jamais et que dans un an et demi plus tard, tous ces Apple Store auraient fermé. On sait bien aujourd'hui que c'est pas du tout le cas.
Ils ont failli fermer.
Les Apple Store, jamais de la vie.
Non, mais Apple était en crise.
Ah, Apple, oui, non,
90,
mais ça.
Donc oui, les Apple Store auraient fermé, quoi.
Bien sûr, non, mais ça, c'était même avant que oui. Steve Jobs ne revienne. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Moi, je dirais que c'est pas grand chose, mais ça a quand même fait beaucoup de bruit, plus de bruit que ça n'en méritait peut-être. C'est vrai, parce qu'on savait pas ce qu'il allait se passer et tout. Tout le monde se disait, ah, les managers des Apple Store ont reçu des trucs. Bon, bref, voilà. Petite nouvelle un petit peu moins positive sur Apple, c'est l'histoire des malwares. En fait, il y a de plus en plus d'informations selon lesquelles un logiciel de malware qui s'appelle Mac Defender est en train de gagner énormément de terrain sur macOS. Donc, il y a beaucoup de gens qui installent ce logiciel parce qu'ils vont sur un site web. Le site web fait apparaître une fenêtre qui leur dit « Attention, votre Mac est en danger, installez tout de suite Mac Defender. Sortez votre carte bleue et rentrez le numéro pour pouvoir l'installer. » Alors, il y a des gens, le truc, c'est qu'ils sont tellement pas habitués à ce genre de technique malhonnête dans le monde d'Apple, qu'ils disent « Ah oh bah merde, mon Apple est en danger, mon Mac est en danger, vite, je rentre mon numéro de carte bleue. » Et, bon, jusque-là, ça prouve simplement que le Mac n'est pas moins en danger que le PC de se faire infecter, c'est juste que, a priori, le marché des Macs était beaucoup plus faible jusqu'à il y a peu. Enfin, il est toujours beaucoup plus faible, mais surtout, il n'était pas intéressant pour les pirates. Et là, il commence, il a tellement grossi qu'il commence à devenir intéressant. On est à peu près entre bon, 8-9% en fonction des endroits où on regarde.
Mmh. Et 8% en France.
8%, voilà.
10 en France, je crois.
Aux États-Unis, c'est un peu moins, si je ne m'abuse. Ouais. Et surtout, une autre chose qui, je pense, va faire hurler un fan de d'Android comme toi, c'est que quand on appelle le support technique d'Apple, ils vont pas vous dire comment le désinstaller parce qu'ils n'ont pas les procédures en place. Et puis surtout, il y a une question de responsabilité. Ils peuvent pas vous dire enlever tel fichier, enlever tel truc, alors que ça serait très simple. Ils vont pas vous dire comment enlever ce logiciel. Donc, Barberousse dit idem, c'est l'ordre logique.
Mais, exactement. Mais bon, ça va pas me faire hurler en tant que fan d'Android. Déjà ouais. Parce que je suis un macophile. Et c'est pas pour ça, c'est juste parce que
je suis. On avait dit qu'on le disait pas, t'étais censé être le mec qui déteste Apple.
Bon, je suis un. Bon, on l'a compris. Mm-hmm. Et donc, non, ça va pas me faire hurler en tant que fan d'Android, mais ça va plus me faire hurler en tant qu'écologiste, on va dire. Parce que voir ramener des ordinateurs, tout ça, parce que on peut pas désinstaller cette application.
Non, mais non, ils ramènent pas les ordinateurs, ils appellent le support technique, faut pas déconner quand même.
Mais combien de personnes vont passer à l'Apple Store
Ah, c'est possible, oui.
Pour tester une nouvelle iPad sur les comptoirs et pour faire réparer leur Mac.
C'est possible, c'est possible.
Et les gens avec leurs 27 pouces, ils sont pas très mal. Hein.
Mais c'est pas dans la culture de l'utilisateur de Mac. Il y a cette sorte de légende urbaine, en fait, qui veut que le Mac ne se fait pas infecter par des virus. Alors, non, je reformule.
Mais je pense
que
t'as raison.
Ne peut pas se faire infecter par des virus, alors que c'est pas le cas. C'est juste que il est peut-être un petit peu plus sécurisé parce qu'il est basé sur Unix, mais c'est même pas ça. Si les pirates veulent s'installer sur ta machine, ils trouveront un moyen, pas forcément la tienne, mais sur un Mac, ils trouveront un moyen. Il y a du social engineering, ils vont te faire croire que tu dois absolument installer ce truc, et voilà, quoi.
Non, mais ça, c'est sûr. Après, comme je le disais, c'est la réactivité qui prime, pour moi. Mmh. Mais c'est marrant, parce que lorsque j'ai lu cette news, j'ai beau être équipé en Mac, je me suis pas senti visé. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça a fait ça pour vous.
C'est la même chose que sur Windows, ce genre de trucs ne visent pas des gens qui sont...
Et sur Windows, je me sentais déjà un peu plus visé. Parce que sûrement, j'avais l'habitude déjà de me protéger, alors que sur Mac, j'ai complètement abandonné ces habitudes.
Bah, disons que sur Mac, il faut rentrer son mot de passe administrateur, il faut cliquer sur le truc « oui, ok », etc. Donc, c'est... Bon. C'est le début, en tout cas. Ça commence et ça ne va aller qu'en empirant. Et autre nouvelle pour conclure sur Apple... En fait, on disait la dernière fois que les éditeurs sont en train d'accepter les conditions d'Apple pour être présents sur l'iPad, les éditeurs de presse. Et on sait aujourd'hui pourquoi ils finissent par accepter. L'un des points de blocage essentiels était la question des informations des abonnés. C'est-à-dire que l'un des business models, enfin l'un des moyens pour les acteurs du monde de la presse de faire de l'argent, c'est de faire du marketing ensuite quand ils ont les informations, leurs fichiers de mailing, enfin leurs fichiers clients, pour toutes les personnes qui sont abonnées à leurs publications. Et en fait, Apple avait dit, oula, je sais pas ce qui se passe,
non.
Ulrich,
c'est mieux là. Je sais pas ce qui s'est passé non plus, mais
un truc bizarre. En fait, si Apple gérait la facturation, les éditeurs n'auraient plus accès aux informations des abonnés. Et donc, la solution qu'avait trouvé Apple, c'était de poser la question aux abonnés et de leur dire, est-ce que vous acceptez qu'Apple partage vos informations avec, je sais pas moi, Le Figaro, Le Monde ou ce que c'est. Évidemment, tout le monde se disait, mais personne va accepter. Personne va dire, ok, donnez nos informations. Et en fait, eh ben, il se trouve que sur les premiers mois de test, il y a plus de 50% des utilisateurs qui acceptent. Donc en fait,
ça, c'est intéressant. Mais moi, je travaille chez Orange Valley et c'est marrant parce que j'ai beaucoup réfléchi sur ce problème parce que je développe entre autres, je fais partie d'un projet qui s'appelle Jukebox, qui en gros un service autour des réseaux sociaux et de la voix. Et on avait, sur notre produit, on a une offre qui est en fait de l'in-app purchase, donc l'achat directement dans l'application renouvelable. Oui. C'est-à-dire que je suis sur le même modèle que les journaux. La personne va s'inscrire pour un an et c'est renouvelé automatiquement, sauf si elle décide que c'est pas renouvelé. Alors, lorsque je me suis posé la question, c'était il y a un mois, Et les développeurs avec qui je travaille m'ont mis un gros warning, m'ont dit aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il n'y a que The Daily, qui est donc bien sûr le journal américain, qui a été accepté sur l'App Store avec ce système. Et donc il paraîtrait que c'est très compliqué d'être accepté sur l'App Store avec ce système. Donc nous, on a réfléchi un maximum, on a pris toutes nos précautions, c'est-à-dire qu'on a mis un maximum de pop-in avec des messages qui expliquent bien qu'est-ce qu'on va acheter, qui explique bien pourquoi on va prendre les données, etc. Et il y a que dans ces conditions-là que l'application est acceptée sur l'App Store. Donc il y a déjà ce mur qui est très difficilement franchissable, c'est-à-dire être accepté sur l'App Store avec ce système. C'est-à-dire qu'Apple reste très très, enfin va faire vraiment très attention à toutes les applications qui utilisent ce système. Et il va falloir vraiment être très transparent en tant qu'éditeur. Donc ces données-là, on y a accès directement dans l'administration en tant que développeur. On a accès à toutes les données qu'on, toutes les personnes qui ont partagé leurs données, on y a accès. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que en gros, on est un peu obligé de proposer une par exemple, lorsque je vais proposer un mois de service, on est obligé de proposer une semaine. Bon, là, c'est mon exemple. Une semaine de gratuité. Et c'est pour cette semaine-là que, en gros, Apple demande les informations personnelles. C'est assez, faut vraiment comprendre le système.
Oui, excuse-moi, mais j'ai rien compris, en fait, moi non plus.
En gros, Apple, en gros, les contraintes sont assez énormes lorsque tu veux publier une application sur l'App Store qui utilise l'in-app purchase avec l'abonnement.
Ouais.
Il faut, bien sûr, être au maximum transparent sur ce que la personne va acheter. Et il faut également offrir une version de démonstration dans ce que tu vas acheter, c'est-à-dire que si tu achètes un mois, il faut qu'il y ait au moins je sais pas une semaine d'offert. Et c'est je t'avouerai que là ça a fait lieu de beaucoup de discussions chez Orange Valley sur ces problèmes-là, et que l'application n'a pas encore été acceptée, et je pense qu'il va en avoir très peu d'acceptés avec ce système. Mais c'est pour ça que je suis étonné. Je pense que c'est un système qui va beaucoup plus fonctionner chez sur les applications de service que chez les magazines et la presse, etc.
Bah écoute, le Daily n'est pas vraiment en train d'être rentable aujourd'hui, mais en tout cas les autres éditeurs semblent s'engouffrer dans la brèche aussi. Ça, on verra si ça sera rentable à terme.
Ouais. Mais ils se sont engouffrés dans pas mal de failles, enfin de brèches plutôt, et ça n'a pas toujours été gagnant pour le moment pour la presse.
Oui, c'est vrai.
Il y a eu beaucoup de, on leur a beaucoup vendu de choses qui finalement ne sont pas avérées intéressantes.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc je reste encore. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour les services, les applications à service.
Oh, je sais pas, moi c'est. Oui, bon. Enfin, pour les services, oui, c'est sûr que ça sera très utile. Un abonnement, par exemple, je sais pas moi, Spotify au hasard ou un autre du genre. Ouais.
Et encore faut-il qu'on soit accepté sur l'App Store. Mais je pense que on va en entendre beaucoup parler d'applications refusées.
Ouais. Bah d'ailleurs, Playboy a été accepté en version non censurée. Donc, si vous voulez vous abonner à Playboy, c'est aujourd'hui possible. Alors que, on sait bien que Apple a été assez sévère avec les questions de interdit aux moins de 18 ans ou pas. Et visiblement, ils ont fini par accepter Playboy. On ne sait pas pourquoi. Donc, bon, deux dernières petites news. Premièrement, Windows 8. On commence à en entendre parler pas mal. Windows 8 sera compatible avec les processeurs ARM, les processeurs souvent utilisés dans le mobile, on le savait. Mais Intel a dit que Windows 8 sur ARM ne ferait pas tourner les anciennes applications Windows jusqu'à Windows 7. Il faudrait des applications spécifiquement développées pour Windows 8. Ça paraît, bon, pourquoi pas, à la limite, mais ensuite, Microsoft a dit non, c'est des conneries, on ne sait pas pourquoi vous dites ça, mais enfin si, on sait bien pourquoi ils disent ça. Ils veulent pousser leur propre processeur Intel plutôt que ceux de ARM.
Après, on est toujours autour des alliances. Mais bon, non, mais je trouve ça. Après, peut-être qu'il y a des explications un peu plus techniques sur. C'est vrai que si on doit, par exemple, virtualiser des applications, ça peut perdre en performance. Et peut-être que Microsoft n'a plus envie d'être connoté à tout ce qui est mot-clé comme lag, etc. Du coup, ils essayent de fournir une meilleure expérience, c'est-à-dire que d'être très très sec comme l'est Apple sur.
Oui, c'est sûr. Mais enfin, ils ont dit que Intel n'était pas enfin avait donné de fausses informations. Il est possible que la vérité soit entre les deux, qu'effectivement pour une question d'optimisation des performances, comme tu le dis Ulrich, ils aient dû faire des compromis, mais que ça soit pas non plus au point qu'avait dit Intel, c'est-à-dire rien ne tournera sur les processeurs ARM. Parce que l'architecture ARM et x64, donc l'architecture d'Intel, est différente. Donc c'est pas évident de faire fonctionner sur les deux en même temps. Dernière chose, je sais pas si on va vraiment pouvoir se plonger dans le sujet qui est passionnant, c'est le sujet de Bitcoin. Bitcoin pour bit comme un bit, la plus petite unité de données informatiques, et coin comme une pièce. Donc c'est une monnaie informatique, ce qu'on appelle une cryptocurrency, donc une monnaie de cryptage. Alors je vais essayer de résumer en deux secondes de quoi il s'agit, mais c'est vraiment pas évident parce que c'est un sujet hyper compliqué. C'est un projet qui en fait permet de créer quelque chose qui est rare dans un format digital. Et la chose qui est rare, c'est une série de données créées par un algorithme qui fait office de monnaie. Et par design, cet algorithme crée un nombre limité de ces bitcoins, donc de ces pièces, et ils n'ont pas vraiment de valeur, mais ils peuvent être transférés. Donc, ils sont créés par calcul distribué, par P2P. Et le truc qui est essentiel, c'est que si vous voulez essayer d'en créer avec l'algorithme, vous téléchargez le logiciel et vous les créez sur votre ordinateur. Je vois que c'est parti dans le pouce pièce dans la chatroom, référence à l'apéro du capitaine. si vous voulez en créer chez vous, en fait, la valeur de cette pièce unitaire sera plus faible que la valeur de l'électricité et du temps que vous aurez dépensé pour la créer. Ce qui veut dire que cet aspect de rareté existe vraiment. Ensuite, vous pouvez échanger ces pièces virtuelles avec d'autres personnes. Et à partir de là, à partir du moment où les pièces virtuelles sont suffisamment rares et suffisamment difficiles à créer, ça veut dire que la valeur peut être réelle. Je ne sais pas si je suis clair, visiblement pas, mais en gros, c'est comme si vous créiez un fichier sur votre ordinateur qui est identifié et dont vous ne pouvez pas en créer de copie, en fait. Donc, si vous ne pouvez pas en créer de copie, sa valeur peut être fixée en fonction de la rareté. Imaginez, par exemple, que vous ayez la seule copie possible du... on crée beaucoup. Oui, bon, créer, pardon. Si vous avez la seule copie au monde de la dernière chanson de Lady Gaga, au hasard. Si vous avez la seule copie au monde, elle va avoir une certaine valeur. Et si vous pouvez pas la copier, forcément, la valeur va être plus élevée que s'il suffit d'en faire 12 000 copies MP3 pour les envoyer à tous vos potes. N'est-ce pas? Là, c'est un petit peu le même principe. Ça va créer un truc, sauf que ça a pas une valeur inhérente comme la dernière chanson de Lady Gaga. C'est juste que c'est un truc qui est rare. Comme une pièce de monnaie, finalement. Une pièce en elle-même, elle n'a pas une valeur aujourd'hui, enfin un billet plutôt, n'a pas de valeur. Il a juste une valeur parce que le pays qui l'émet dit qu'il a une valeur et la garantit cette valeur. Et bien là, vous aurez ce fichier en quelque sorte qui est unique sur votre ordinateur et il n'en existe que aujourd'hui 6 millions dans le monde. Et si les gens commencent à se les échanger, par exemple, moi je vais vous dire, je vais dire à Ulrich, si tu participes à mon émission, je vais te payer 3 bitcoins. Tu dis ok, je t'envoie les 3 bitcoins. Ensuite, tu dis à un ami à toi, si tu écris un truc sur mon blog, je vais te payer 2 bitcoins, etc. Et bon, bref, ça devient une monnaie. Est-ce que tu as compris quelque chose à mon explication?
Oui, j'ai un petit peu compris, mais c'est vrai qu'on tombe sur un concept un peu d'économie, un peu d'informatique.
Disons que j'ai établi les bases. Et si on a, je vais faire un petit peu plus rapidement pour la suite, c'est-à-dire que si cette monnaie existe vraiment, on peut l'envoyer par un système de P2P, c'est de la monnaie décentralisée et virtualisée. Et on peut l'envoyer par des systèmes de P2P, l'échanger, et ça veut dire que ce n'est pas traçable par les gouvernements. Et si effectivement ça commence à être utilisé par différents sites, comme des sites de poker, des sites de pornographie, des sites de ce genre de choses, vous pourriez vous constituer un portefeuille de Bitcoin qui serait, dont les pièces seraient acceptées par différents services, et cette monnaie ne serait pas du tout traçable. Donc ça pourrait devenir potentiellement quelque chose d'extrêmement perturbateur pour l'économie si c'est largement adopté. Évidemment, ça sera jamais largement adopté parce que c'est tellement perturbateur que ça va jamais être légalisé. Ça va au contraire être très vite considéré comme illégal pour toutes ces raisons. On n'a pas à, on peut pas le traquer, donc on peut pas payer. On n'a pas à payer d'impôts, on n'a pas à payer de taxes, etc. Mais imaginez que vous puissiez utiliser vos bitcoins pour acheter des services en ligne, par exemple Netflix aux États-Unis, ou un truc de poker, ou un truc de Google Music au hasard, ça pourrait avoir des conséquences intéressantes. Je vais m'arrêter là parce que je sens que personne n'a rien compris.
Si. Mais bon, je pense que c'est un sujet sur lequel on est vraiment sur des bribes de. C'est les bribes du projet, je pense.
Oui, complètement. Et dans la chatroom, d'ailleurs, Lionel G dit pas d'impôts, anarchie, nous voilà. Mais c'est exactement ça. MK Taranis dit, je suis un peu largué, je sais pas pour vous. je pense que tout le monde est largué parce qu'en plus j'ai essayé de compresser toutes ces informations trop vite. Donc je vais m'arrêter là. Les gens vont pousser un soupir de soulagement.
Mais les gens se souviendront que c'est de la monnaie électronique en gros.
voilà, en gros. Et vous vous souviendrez que si vous entendez parler de Bitcoin, peut-être que ça vous rappellera certaines choses du rendez-vous tech.
Et en gros, c'est la monnaie qui a pour les criminels, etc.
voilà, c'est la monnaie des gens qui ont des choses à se reprocher.
Voilà.
On va conclure l'épisode en passant avant par la boutique No Watch pour vous dire que la boutique No Watch est notre deuxième sponsor et pour vous dire aussi que vous pouvez nous soutenir en passant vous aussi là-bas. Il y a énormément d'articles qui sont disponibles dans cette boutique et notamment un article en série limitée qui ne sera en vente que jusqu'à la fin juin. C'est plutôt une série d'articles qui est la série des t-shirts pour le Geeking spécial numéro 100. Le podcast Geeking fête son 100e numéro ces jours-ci et ils ont fait un t-shirt spécial assez sympa avec une DeLorean et un thème retour vers le futur. Et vous pouvez aller sur le site nowatch.net pour accéder à cette boutique où il y a une grande bannière au-dessus et vous pourrez voir comment y accéder directement de là. Et entre parenthèses, comme le dit Xoubi dans la chatroom, vous pouvez avoir les frais de port gratuits en rentrant le code NWNET, NWNET. Donc non seulement vous pouvez avoir un des t-shirts qui sera presque unique puisqu'il sera en vente que jusqu'à la fin juin du Geeking 100 ou d'autres t-shirts d'ailleurs du groupe No Watch, mais aussi bénéficier des frais de port gratuits avec NWNET. Donc je ne sais pas ce que vous attendez, vous devez vous précipiter sur le site et le faire immédiatement. Et en plus ça nous soutient, ça nous aide, donc c'est trois pierre d'un coup, à peu près. J'ai perdu le compte, mais c'est à peu près ça. Et ça va être la fin de notre émission. Je j'ai pas trop laissé parler Ulrich sur la fin parce que je me noyais dans Bitcoin. Donc, je vais compenser en lui demandant de nous dire où on peut le retrouver sur Internet, Twitter et ailleurs, si on veut retrouver ses joyeuses animations sur Android.
Donc, c'est vrai que il va se passer pas mal de choses sur Frandroid. Donc moi c'est vrai que j'ai deux vies, j'ai Orangeval et Frandroid. Sur Frandroid je passe mes soirées à développer, en ce moment j'écris plus trop. On va par exemple lancer un truc qui s'appelle un service qui s'appelle Apsoid, donc avec un X, apsoid.com. C'est accessible.
Attends, épelle-le parce que.
C'est Appxoid. Donc d'accord. C'est Apsoid. C'est vrai que c'est pas facile à prononcer.
Ouais.
qui est en fait un service qui va mettre en avant les applications Android qui sont moins chères, celles qui sont gratuites, celles qui sont un coup de cœur. Donc en fait, c'est simplement, on nous a beaucoup reproché sur Fandroid de pas parler beaucoup des applications. On nous en parle beaucoup, on en parle de plus en plus maintenant. Et on nous a aussi également reproché de pas avoir un système qui facilite l'installation d'applications et la mise en avant. Donc là, on l'a développé AppSoIt qui va être lancé très prochainement. Le site est déjà accessible. Il y aura une application Android, etc. Et on pourra être notifié tous les matins des mises à jour, des baisses de prix, de la gratuité temporaire et des coups de cœur. Donc ça devrait être assez intéressant. C'est un marché qui est très développé sur iPhone et qui manque sur Android. Donc on
oui,
espère
complètement,
que,
oui. Ça veut dire que ça fonctionne. Si on va sur, c'est quoi, c'est appxoid.com ou .fr ou...
C'est .com, on l'a acheté le .fr, je ne l'ai pas encore redirectionné.
D'accord.
Donc, redirigé. App... et donc
appxoid.com, et si j'y vais tous les matins, je peux, enfin tous les jours, je peux voir oui. les applications gratuites du jour, comme c'est possible sur différents sites. Pour
voilà, c'est comme app gratuite, etc. C'est ce qui manquait un peu sur Android, j'ai l'impression. Ouais, on est en train de le développer. Ça va être lancé dans les prochains jours.
Ah, mais il est déjà disponible, le site.
Oui, il est déjà disponible, mais on n'avait pas du tout communiqué dessus encore.
Ah d'accord, ok. Donc,
ça
les
a
gars...
été développé en quelques soirées. Donc...
D'accord. Bah, les gars, dans la chatroom, allez-y, hein, vous pouvez voir ce que ça donne. Il est... Oui, oui il est hyper simple et bien foutu, là.
D'ici quelques jours, on va vraiment communiquer dessus. Ouais. On est en train également de relancer un site qu'on avait créé qui s'appelle lesardoises.com, qui sera dédié aux tablettes.
D'accord.
On l'avait déjà lancé l'année dernière, puis on était vraiment pris par Android et on n'avait pas eu le temps. Donc là, on a vraiment repris les rênes du projet. Et j'ai l'impression, comme l'a dit Loïc, les tablettes, c'est de plus en plus important.
Ça, je crois que oui.
Et donc là, on a lancé un site dédié aux tablettes.
Lesardoises.com.
Ouais, lesardoises.com. Et pour terminer, il y a un petit projet qui me tient à cœur aussi, je voulais en parler, qui s'appelle Roxino. Donc roxino.com, qui sera un site qui sera un pure player de la vente de smartphones et tablettes en occasion. Donc je crois que le site il est pas
Roxino.
Encore en place.
Roxino,
ouais. Ça
D'accord.
sera le projet Roxino et on va lancer un pure player de la vente en occasion de smartphones et tablettes.
Excuse-moi, c'est quoi un pure player ?
Un pure player, ce sera qu'on sera dédié à la vente d'occasion, à la mise en contact entre acheteur et vendeur. En fait, on est parti D'accord. du constat que, avec les durées de contrat qui sont toujours très longues de 1 à 2 ans, et le cycle de développement de produits qui est en train d'accélérer, donc il y a de plus en plus de téléphones qui sortent avec des délais de plus en plus courts, les gens ont tendance à vouloir changer très vite de téléphone et ont tendance à vendre leur téléphone. Et en acheter, en rajoutant quelques euros, D'accord. acheter un téléphone neuf. Donc on a le marché qui est en train de se développer. C'est par exemple Free qui a décidé, je pense pour moi c'est plus de la spéculation, de pas faire de téléphone subventionné, c'est-à-dire qu'on achète son forfait,
oui.
on paye que son forfait, mais à côté on peut prendre un crédit pour acheter un téléphone. Donc les deux sont séparés. Une fois qu'on a fini de payer son crédit, on paye pas pendant 3 ans son téléphone alors qu'on aurait dû le payer que 1 an. Et donc on,
ouais, mais c'est pas mal, ça.
Le marché de l'occasion va vraiment exploser. On va se mettre dessus. Je pense que d'ici quelques semaines, on va lancer le truc. Et
D'accord.
pour terminer, je voulais parler d'un petit projet parce qu'il me prend toutes mes journées. C'est le projet Orson sur Orange Valley.
Qui le projet, pardon?
Orson. Donc c'est Orson.fr. Et donc c'est une application, un service qui permet de faire du live broadcasting, donc du live vidéo à ses amis. C'est-à-dire que je télécharge l'application Android iPhone et je peux inviter par SMS n'importe quel smartphone, donc BlackBerry, Symbian, iPhone, Android.
C'est du chat vidéo multiplateforme, quoi.
En gros, les gens vont recevoir un lien, ils cliquent dessus et sans installer d'application, ils pourront voir en format H264 la vidéo.
Ah, sympa.
Et en plus, c'est connecté à Facebook, etc. C'est-à-dire que sur n'importe quel device qu'on ait, on n'a plus trop besoin de se poser la question de savoir si son pote a un iPhone, un Android.
Mais dis-moi, t'es plein de bonnes idées, toi.
Et j'en ai d'autres dans le carton.
D'accord. Bon, bah écoute, tu les garderas pour la prochaine fois.
Là, je pense que j'ai abusé sur mon temps de parole, mais bon.
Mais non, il n'y a pas de souci, ça fait toujours plaisir.
Passe mes journées à développer, j'aime bien en parler de temps en temps.
Et tu sais quoi, avec 4 sites web en promo, tu as en prime un compte Twitter dont tu peux parler.
Oui, j'ai j'ai mon compte perso qui s'appelle Ulrich FR, donc Ulrichfr, tout attaché. Ouais. Et puis il y a bien sûr le compte de Frandroid qui s'appelle Twandroid, parce qu'on malheureusement on n'a pas pu avoir Frandroid. Donc TW Android. Hein. Et d'accord. Je pense que c'est là où je communique le plus en ce moment, du fond de ma grotte, quoi.
D'accord. Ok, bah écoute Ulrich, merci beaucoup d'être venu. Pour ma part, c'est... Ah, mais j'allais oublier les commentaires iTunes. Bon, on va faire vite. Sur iTunes, vous pouvez nous laisser des commentaires et je voulais juste en lire un ou deux. Vous savez quoi, on va pas avoir le temps. C'est pas grave, c'était déjà suffisamment le foutoir. Je vais même pas relancer iTunes. Si vous voulez nous laisser des commentaires sur iTunes, c'est super sympa et donc n'hésitez pas à le faire. Moi, je suis NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Et évidemment, vous avez tout plein de podcasts super cool sur le site NoWatch. Et notamment, vous avez une série de reportages sur Cannes que nous a fait John Plisken des Scuds, qui est absolument admirable. Donc, si vous voulez voir un petit regard au jour le jour sur Cannes ou d'autres podcasts comme le Geeking 100 qui va arriver, n'hésitez pas à faire un tour là-dessus. Et dernière annonce, normalement, si tout va bien et que tout se passe bien, on devrait essayer de faire un live pour la keynote d'Apple le 6 juin prochain. Donc, c'est lundi dans deux semaines, à 7 heures généralement. C'est à 7 heures, heure de Paris, que ça se passe. On devrait essayer de faire un live à ce moment-là pour suivre la keynote ensemble. Alors, c'est pas comme une émission, hein, c'est beaucoup plus pour s'amuser, la fête, tout le monde, ensemble dans... dans la chatroom qui se marre. C'est pour la WWDC et on ne sait pas exactement ce qui va être annoncé, mais on pense qu'il y aura sans doute des annonces, des nouveautés du nouveau macOS, donc Lyon, du nouveau iOS, le iOS version 5, et peut-être même leur fameux service iCloud avec la musique dans le cloud et plein de changements dans les services en ligne d'Apple. Donc, je suis assez confiant qu'on réussira à faire ce live comme au bon vieux temps. Donc j'espère que vous serez là nombreux et ça sera extrêmement sympathique et ça nous fera très plaisir de vous retrouver. Et puis dans tous les cas, également dans deux semaines, donc dans la foulée, on aura le rendez-vous tech, prochain épisode. J'espère qu'on vous retrouvera à ce moment et que vous nous excuserez le côté un petit peu foutoir de l'épisode qui vient de se terminer. Et donc on vous dit à dans deux semaines. Ciao à tous.
Très bientôt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.